بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. شفر الإسلام ونبي expliqué un petit peu le contenu de ce hadith la dernière fois, donc ça remonte à 3 ou 4 semaines. On avait expliqué que c'est un des hadiths de base dans notre religion, et c'est un hadith qui concerne la spiritualité, qui travaille, qui construit l'intérieur du mu'min. Et on avait rappelé qu'il est essentiel pour le croyant de développer une relation sincère avec Allah Azza wa Jal. On doit arriver à une situation que notre cœur soit orienté vers Allah Azza wa Jal, que notre espoir est en Allah uniquement, que ce que nous espérons, ce que nous attendons de la vie, de ce monde et de l'au-delà, nous devons être capables de le demander uniquement à Allah Azza wa Jal. Ce qui nous effraie, ce qui nous fait peur, ne doit pas nous faire peur. Si ce sont là des makhlouqat, des créatures ou des situations liées à ce dunya, nous devons être capables d'évacuer complètement la crainte des hommes, des créatures, des makhlouqat d'Allah Azza wa Jal, et intégrer le fait qu'au-dessus de toute mahlouqa, de toute créature, il y a le Khaliq, il y a Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle créer un lien direct avec Allah Azza wa Jal. On doit être capable également d'arriver à un degré spirituel, un degré de foi, où on est capable d'accomplir avec ferveur, constance, les bonnes actions, régulièrement. Et cette patience, on doit la retrouver également dans les situations de péché. Lorsqu'on est face à un péché, on doit être capable de se rétracter, de faire preuve de patience et de contrôler notre nafs pour Allah Azza wa Jal. Tout comme nous devons arriver à un état de iman spirituel qui nous permet, dans les moments d'épreuve, de ibtila, de nous en remettre uniquement à Allah Azza wa Jal, de décrypter, de comprendre la sagesse d'Allah Rabbul Izzah dans ces difficultés. Jazakallah khair, barakallah fik. Nous devons être capables donc d'orienter nos cœurs vers Allah et d'interpréter, de comprendre les ibtila, les épreuves qui nous touchent, en réalisant que tout vient d'Allah Azza wa Jal, que c'est Allah qui est musabbib, c'est Allah qui envoie les intermédiaires, et c'est Allah Azza wa Jal seul qui est capable d'envoyer Al-Faraj, d'envoyer donc son aide. Ce sont là les points les plus importants de la foi. Et malheureusement, ce sont les points qui manquent le plus aux croyants et aux croyantes à notre époque. Même si nous avons su, par la grâce d'Allah, développer pas mal de sifat, de qualité en termes de a'mal saliha, en termes de bonnes œuvres, en termes de construction d'édifices, en termes de prouesses, parfois même, inshallah, intellectuelles, à travers les prêches, à travers l'organisation, je ne sais pas moi, de séminaires, ou à travers des personnes qui mémorisent le Coran, ou à travers des écoles, des madrasas, qui sont organisées, qui dispensent des cours avec des enseignants, des gens qui ont fait des études. Tout ça, c'est, mashallah, ce sont là des ni'mas, des bienfaits de la part d'Allah. Nous avons pu, alhamdulillah, travailler ces différents aspects qui vont aider la religion, qui vont, bi'ivnillah, faire avancer le travail du dîn. Mais néanmoins, il est capital, il est essentiel pour chaque croyant de développer une relation sincère avec Allah Azza wa Jal au plus profond de son cœur, au plus profond de lui-même. Autrement, quelle est la conséquence? C'est que si dans notre cœur, c'est-à-dire dans l'ossature de notre iman, il y a des failles. Et ces failles, malheureusement, peuvent être invisibles. Il y a des fois où on a des failles dans la foi, dans les bases de la foi, c'est-à-dire on a un manque de confiance en Allah. On n'a pas le husnu dhanni billah, la pensée positive sur notre Rabb Azza wa Jal. Où il y a des fois où on a une petite couche, un petit film protecteur, ou destructeur, pardon, d'ostentation qui enveloppe beaucoup de nos péchés, de nos bonnes œuvres, pardon. Une petite quantité de ria, d'ostentation, qui vient régulièrement autour des bonnes œuvres que nous accomplissons en public. Ben, on ne se rend pas compte de ces manquements. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrit l'exemple qu'on vient de citer, l'ostentation comme étant la chose la plus sensible et la plus difficile, la plus cachée, la plus difficile à détecter. Et tout ça, ce sont des points noirs, ce sont des manquements qui peuvent toucher le cœur de l'homme. Et si on n'arrive pas à faire un travail là-dessus, si on n'arrive pas à nettoyer le cœur et à nous orienter sincèrement, réellement vers Allah Azza wa Jal, ben dans les moments extrêmes, dans les moments d'épreuve, ou dans les moments où on a vraiment besoin de, subhanallah, de nous raccrocher à Allah Azza wa Jal, on se rendra compte, Allah nous protège de ces situations, on risque de se rendre compte que, malgré mon assiduité aux prières, malgré ma mémorisation du Coran, malgré peut-être mes études, le nombre de hadiths que je mémorise, je me rends compte que dans telle situation, je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à placer une confiance totale en Allah. Je n'arrive pas à gérer les épreuves qui m'accablent, qui me touchent en me référant à mon Seigneur. Mais non, je vais me référer aux événements. Je vais me baser sur l'issue des événements. Et à partir de là, je vais construire un jugement. Mes doigts ne sont pas exaucés. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont là des manquements qui risquent d'apparaître si, à la base, on n'a pas une foi, un iman consolidé. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, pendant les 13 premières années à Makkah al-Mukarrama, avait formé le iman, la foi des sahaba. Et les sahaba avaient atteint un tel degré de iman qu'ils aimaient Allah et son prophète plus que tout au monde. Il y avait l'histoire d'une dame, cette sahabia, son nom ne me revient pas. Peut-être que Idriss connaît l'histoire, il connaît le nom de cette dame. Lors d'un affrontement entre les musulmans et l'armée ennemie, elle a perdu son père, son mari et son frère. Et on a été voir cette dame, les sahaba ont été voir cette dame pour les condoléances, qu'on appelle en arabe les ta'ziyah, pour l'encourager. Et la première question, on lui a annoncé que ton papa est décédé. Il a dit, « Mada fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ?» Qu'est-il arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit que ton frère est mort. Il dit, qu'est-il arrivé ? Quelle est la situation de mon habit sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit, ton mari est mort. Il a dit, où est mon prophète ? Est-ce qu'il va bien ? Et là, les sahaba nous rassurent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien. Si je ne me trompe pas, c'était après la bataille de Uhud. Et là, cette dame a dit que tant que vous ne m'amenez pas auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que je puisse le voir de mes propres yeux et me rassurer qu'il va bien, ben je ne serai pas tranquille. Et les sahaba l'ont amené à la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en commentaire, les savants disent, voyez une personne qui vient de perdre les cadres de sa vie. Papa, frère et époux, mari. Malgré ça, son fikar, son souci, c'est hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît presque inhumain. Je pèse mes mots. Ça paraît presque inhumain, dit cette personne, astaghfirullah. Cette personne n'a pas de cœur. Quoi, elle n'aime pas son mari, elle n'aime pas son propre papa, elle n'aime pas son propre frère. Là, wallah, ce n'est pas du tout là ce qui habitait le cœur de cette sahabia. Elle aimait son père, elle aimait son frère et son mari comme une croyante se doit de le faire. Mais elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une croyante se doit de le faire, c'est-à-dire plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Ainsi était l'amour des sahaba ridwanullahi alayhi majma'in pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant ces 13 années à Makkah, le prophète alayhi salatu wa sallam a formé la foi des sahaba. Ils avaient une confiance
total en Allah Azza wa Jal. Ils avaient développé cette notion de l'invisible, alladhina yu'minuna bil ghaib, qui est une qualité propre, intrinsèque à chaque croyant, ils l'avaient développé. Le iman avait atteint tel degré qu'il suffisait que le wahi descendait et donnait l'ordre d'accomplir telle action pour qu'il l'accomplissait sans hésitation. Ou que le wahi descendait pour interdire tel péché qui peut-être était de leurs habitudes, ils étaient prêts à le faire sans hésitation. C'est exactement ce que nous n'arrivons pas à faire. À la différence des sahaba, enfin il y a énormément de différences, mais un aspect, c'est que nous sommes à une époque où le wahi est complet. Ayyom akmaltu lakum dinakum. Nous savons exactement ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Les sahaba, à leur époque, la révélation, on est encore à l'époque Makki ou Madani, la révélation n'est pas parachevée. Ce qui veut dire que durant leur existence, il y a peut-être des habitudes qu'ils avaient depuis Al-Jahiliya, depuis l'ignorance, et qui vont devenir interdits. Alors que leur cœur est habitué, ils ont cette tradition. Ils doivent être capables de répondre présent lorsqu'ils sont sollicités par leur Seigneur. Ce qui n'est pas quelque chose de simple. Mais le iman avait atteint ce degré qu'ils étaient capables de le faire. De nos jours, nous savons exactement les limites, la frontière entre le halal et le haram. Mais, Wallah musta'an, notre foi est tellement faible. Je dis bien notre foi, parce que les mêmes personnes qui vont mettre un pied ou deux, ou alors plonger dans l'illicite, dans le haram, ce sont des gens parfois que nous croisons au premier rang des prières. Ce sont des personnes qui parfois lisent le Coran mieux que les sahaba. Ce sont parfois des gens qui mémorisent l'intégralité du Coran. Je ne donne pas d'exemple particulier, je ne vise personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un décalage entre l'action, la pratique, le degré de amal salihah, le degré de pratique qui malheureusement n'est pas le reflet de la présence de iman. C'est une pratique qui reste fragile. C'est une pratique qui ne traduit pas une présence de foi, une épaisseur spirituelle comme les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ils avaient. Ainsi, je conçois que je dois jeûner un mois de Ramadan, que je dois faire le hajj, je conçois qu'il est bien d'aller au umrah une fois de temps ou régulièrement, qu'il est bon de lire le Coran, qu'il est bien de le mémoriser, et ainsi de suite, mais ne me parlez surtout pas de, astaghfirullah, d'ingérence de l'islam dans les relations hommes-femmes. Ah non, attention, je suis un bon musulman, regardez ma barbe, regardez ce que je mets comme vêtement, je suis à la prière, je cotise, mon fils, il mémorise le Coran avec Moulana, avec Mufti Intel, et j'appartiens à une famille, mon papa a fait ça, mon grand-père, ainsi de suite. Donc, ne viens pas me donner de leçons de religion. Ça, c'est un grave problème. C'est un problème qu'on retrouve dans notre société. C'est-à-dire que les cœurs sont fermés sur des acquis spirituels. On n'a pas besoin d'acquis spirituels. On a besoin d'une spiritualité qui est ouverte en permanence, d'un cœur qui est ouvert et qui accueille et qui s'abreuve des versets du Coran et des paroles du prophète alayhi salatu wassalam et qui ne s'est pas fixé une limite, qui ne s'attribue pas le paradis. Je vous jure que certains s'attribuent déjà le Jannah et qui est prêt à changer sa vision des choses si les textes le disent. C'est-à-dire un cœur qui est prêt à se soumettre istislam ou lillah 100% intégralement à Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, autant je suis assidu dans les actions que j'ai citées tout à l'heure, quand on me parle de mixité, là j'estime qu'il ne faut pas qu'il y ait ingérence de la religion dans ma vie de société. Je vous donne un exemple tout bête, hein, un mariage qui peut être organisé par des gens très religieux, ils vont faire un mariage avec la mixité totale, les hommes et les femmes ensemble, et les femmes dans des mariages, encore si les femmes s'habillaient correctement, on va dire que, ok, on peut trouver une solution peut-être, ok, mais on connaît la situation, et parfois ça vient de personnes qui sont régulières de leur amal, de leurs bonnes œuvres, ce qui veut dire qu'il y a à la base un manquement, et on a tort de se persuader qu'on est sur le droit chemin à 100%. Quand on me parle de transactions financières, alors que je suis à deux doigts de conclure l'achat de ce bâtiment ou de changer ma voiture ou je ne sais pas quel projet ou d'ouvrir un point de vente et que j'ai déjà rencontré mon banquier, et j'ai négocié un prêt avec intérêt de... C'est quoi les taux en ce moment? Réponds pas, Riyad. Attention, réponds. Hein. C'est quoi les taux en ce moment? Personne ne sait, alhamdoulilah. Je suis prêt à négocier un taux de... Je dis un chiffre au hasard, dites-moi si ça existe ou non. J'ai eu un super taux de 3%, un truc comme ça. Et donc, c'est ficelé. Maintenant, quand un cheikh ou un fundi, un alim vient me dire qu'attention, ça c'est riba, ça c'est l'intérêt, ça c'est haram, ça c'est un des kaba'ir, un des péchés les plus graves de notre din. Je dis, écoute, Moulissa, occupe-toi de madrasa, occupe-toi de ma'amat, fais-le à ma'amai, et ça c'est mon business, ça. Ou va mamazid, oui non. Fajar mil est là, oui non. Ramzan, me donne l'argent, mosquée, oui non. Ben, ça, c'est entre moi et Allah. Après, shaitan vient et dit, réponds-lui, c'est en toi et Allah. Et shaitan devient ton cheikh. Shaitan devient ton chef spirituel qui te dicte les bonnes les réponses. Allah Moustan. Pourquoi est-ce que je donne autant d'exemples? On est en train de faire presque un tableau de notre société. Où il y a un, et je ne juge personne, Allah seul sait peut-être que de cette assemblée, sans le moindre doute, je suis le plus pécheur parmi vous. Parce que plus on a, je ne dis pas que j'ai plus de connaissances que les autres, mais plus on a de connaissances religieuses, plus on fixe la barre haut en termes de rendement. C'est-à-dire le péché du savant, c'est beaucoup plus lourd en conséquence, qu'Allah me pardonne, que le péché de celui qui connaît les bases. Et qu'Allah me pardonne, et qu'Allah nous pardonne. Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne. Vraiment, si, subhanallah, si c'était uniquement les pieux qui devaient prendre la parole, personne ne prendrait la parole. Mais Allah est Rahman Rahim, Allah est Ghafur Rahim, et qu'Allah pardonne nos manquements, qu'Allah pardonne nos erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est presque comme si on dressait un tableau de notre mujtama', de notre société, où on finit par se persuader qu'on est vraiment bien, on est vraiment des gens dans le droit chemin. Et puis on regarde, regardez, excusez-moi, je ne vise personne, je dis regardez Madagascar, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils ont une mosquée avec deux morceaux de bois, un tol et tout, ils font pitié, on envoie de l'argent et tout, et on se persuade que ben, nous on est bien parce que nos mosquées sont en dur, parce que ma mosquée elle fait 3 étages, parce que dans ma médersa j'accueille 450 ou 2000 ou 3000 ou 200 ou 80 élèves, donc waouh, ouf, heureusement nous ici ça va. Qui t'a dit que ça va? Qui te dit que le petit malgache ou comorien ou maori là-bas, son iman, il t'a pas déjà dépassé des années-lumière? Qui te dit que c'est pas lui qui rend le firdaus al-a'la min al-jannah 500 années avant toi? Quoi? C'est parce que son mosquée, sous-tol, hein? L'embois sous-tol, et que toi ta mosquée elle est en dur et en marbre, que tu es meilleur que lui, abadan wallah. Vous pensez qu'Allah regarde ça? Comment était la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Des troncs de palmiers, des feuilles, lorsqu'il pleuvait, l'eau passait à travers et ça tombait, ça faisait de la boue. Sahaba, lorsqu'ils faisaient la prière, ils avaient des taches de terre sur le front. Et pas de belles moquettes, ils n'avaient pas tout ça. Est-ce que le degré de foi et d'implication dans la religion est basé, ou alors on peut le lire, le décrypter par rapport aux infrastructures que nous possédons? Abadan. Combien de sahaba mémorisaient le Coran? Peu. Combien de sahaba pouvaient lire le Coran? La majorité des Arabes étaient ummiyin, étaient illettrés. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ont un degré inférieur aux nôtres? La wallah. Quand le prophète alayhi salat wa salam avait expliqué aux sahaba la réalité de la foi, et il a expliqué aux sahaba que Abu Bakr al-Siddiq vous a tous dépassé. Le prophète m'a dit une parole, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois, il a dit Abu Bakr al-Siddiq ne vous a pas dépassé bi kathrat al-a'mal. C'est pas parce qu'il a fait beaucoup de bonnes actions, lakin bi shay'in waqara fi qalbi, ou comme a dit alayhi salat wa salam, il y avait quelque chose dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Imanu billah, al-isti'anatu billah, hubbullah, hubbur rasoul, ar-raja, al-khawf, les qualités spirituelles du croyant, l'amour pour Allah, une confiance totale en Allah, l'amour pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit de sacrifice, la confiance en Allah, la crainte d'Allah, la taqwa. Abu Bakr l'avait. Ce qui fait qu'Abu Bakr a dépassé tout le monde. Un tabi'in, je ne sais pas où, un savant, dit que لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض دون الأنبياء لرجح إيمان أبي بكر. Si d'un côté de la balance on mettait la foi de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, et de l'autre côté on mettait la foi de la Ummah en entier, mis à part les prophètes, l'intégralité de la race humaine, Sahaba compris, la foi d'Abu Bakr pèserait plus lourd que celle de l'humanité, mis à part les Anbiya alayhi salatu wassalam. L'esprit de Mujahada, l'esprit de sacrifice, une personne qui a tout donné pour Allah. Maintenant, comment arriver à un résultat semblable? Abu Bakr, c'était le summum. Bien sûr, le Sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, était un peu en dessous du niveau d'Abu Bakr. On va retrouver Umar, Uthman, Ali. On va retrouver les Ashara, les 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis. On va dire plutôt les 6, parce qu'il y a les 4 avant. D'accord? On va retrouver les Ahl Badr, les gens de Badr, les gens de Uhud, les Muhajirin, les Ansar, les Sahaba, en général, les autres, les Tabi'in, les Atba'i Tabi'in. Ensuite, il y a d'autres catégories. Comment arriver à un degré de iman, de foi, qui nous permet de faire rejaillir réellement l'intensité des bonnes œuvres dans notre vie du quotidien. Et que ce qu'il y a dans notre cœur en amour pour Allah et son prophète, on le retrouve à travers les bonnes œuvres. Ce qui ferait de nos bonnes actions l'équivalent des bonnes actions de Sahaba. Est-ce que quelqu'un pense à comparer sa salat al-Isha avec la salat al-Isha de Abu Bakr al-Siddiq? Excusez-moi, la phrase même est insolente. Parce que lui, il avait un degré de foi que nous, on n'a pas. C'est incomparable. On ne peut même pas dire que c'est un poisson. Non, abadan, même pas. D'accord? Qu'est-ce qui fait que les sahaba, je ne sais pas, on n'est pas en train de vous casser moralement aussi. Hein? Ce n'est pas dire qu'on ne vaut rien, que bon, c'est bon, on se laisse aller. Non, c'est-à-dire, on a besoin de se remettre en question. Parce qu'il n'y a rien de plus grave, mes chers frères, en islam, que le croyant qui pense qu'il est bien. Il est l'autosatisfaction, barakallahu fik. Celui qui pense qu'il est dans le droit. Quand une personne éprouve l'autosatisfaction, c'est que Shaitan a déjà joué avec cette personne. Shaitan le persuade que toi, tu es bon, toi. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Et regarde celui qui fait rien. Regarde cette personne-là. Regarde comment il s'habille. Regarde comment il vient à la mosquée. Regarde, et ainsi de suite. Donc, toi, alhamdulillah, tu es dans illiyin. Tu es dans les hauts degrés. Tu fais partie des hautes personnalités de cette umma. Ça, c'est une erreur gravissime. Waswasa de Shaitan. On a besoin de se remettre en question. Et ça nous ramène vers le hadith d'Jibril, qu'on a clôturé il y a quelques temps, que l'ange Jibril vient rappeler les bases de la foi aux sahaba à Madinatul Nabawiyya. Qui étaient les sahaba? Après 13 années de travail de iman, avait-il besoin encore de comprendre de leçons sur Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir wa al-qadr? Avait-il besoin encore de ça? Oui, ils avaient besoin. Parce qu'on a toujours besoin de réactualiser, de revoir notre iman. Les ulama aqidah disent l'iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siya. C'est une règle, c'est pas un hadith, hein? C'est une règle chez les savants de aqidah, de croyance islamique, que la foi augmente ou diminue. Quand je dis que la foi augmente ou diminue, ça veut dire que il n'y a pas une troisième alternative. La foi ne reste pas stable. Soit elle augmente, soit elle diminue. Yazid bil ta'a, la foi augmente. Tant qu'on fait de bonnes œuvres, la foi augmente. Et quand on fait des péchés, la foi diminue. Ce qui veut dire qu'on a besoin de faire du souci pour notre iman, yaoumiyan, tous les jours, à chaque instant, bien inconscient, ce croyant qui se dit, on arrive bientôt le mois de Rajab, c'est dans quelques temps le Rajab, non? Dans 3 semaines. Du coup, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Le Ramadan approche, au mois de Ramadan, je vais commencer mes bonnes œuvres, mes a'mal salihah, mon qiyamul layl, ma lecture de Coran, mon saum bien sûr, mes jeûnes, et ainsi de suite. Et après c'est parti, bien inconscient, celui qui attend les moments comme Ramadan pour se faire du souci sur son iman. Là, wallah. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait que si je savais qu'Allah avait accepté un seul de mes prosternes à son sijda, je serais entièrement satisfait. C'est-à-dire que savoir qu'on a été accepté par Allah, c'est magnifique. Et personne ne peut le savoir. Alors qu'Umar a reçu la bonne nouvelle du Jannah. Mais c'était des personnes qui se remettaient en question tout le temps. Abu Bakr al-Siddiq, c'est un récit. Je n'ai pas trouvé la source authentique ou non à vérifier. Abu Bakr al-Siddiq, à l'époque où il faisait le commerce, une personne ramène une pièce de tissu, pas satisfaite de la marchandise. Abu Bakr al-Siddiq se met à pleurer. Personne ne comprend pas où Abu Bakr, ce n'est qu'un retour de marchandise. Est-ce que ça t'affecte autant, quelqu'un comme Abu Bakr, attaché au dunya de cette façon? Sahaba Abu Bakr se dit, oh mon frère, c'est pas ce morceau de tissu-là qui m'attriste. C'est que hier tu t'es satisfait aujourd'hui ça ne te plaît plus. Qui te dit que hier Allah Azza wa Jal était satisfait d'Abu Bakr al-Siddiq et qu'aujourd'hui n'est plus satisfait de moi? Qui me donne la garantie? Ça c'était la remise en question permanente des sahaba, le souci du iman. Aujourd'hui on a le souci de tout, on a le fikar, le souci de nos fins du mois, on a le souci de notre salaire, de nos factures, de nos projets, de nos congés, de nos vacances, des études de nos enfants, du baccalauréat, de ma voiture, de ma taxe d'ordure aménagère, de ma taxe d'habitation. On a plein de fikar, plein de soucis. Ça c'est insan ça, moi-même j'y pense. Tout être humain pense à tout ça. Ça fait partie de la vie. Mais qu'on mette le souci du din bien avant. Fikar pour notre iman, c'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, ma cousine est décédée. Ma cousine, elle est décédée dans la ville de Tampon. Allah Azza wa Jalla a décidé qu'elle meure jeune. Jeune, de nos jours, elle avait moins de 50 ans. Elle est décédée dans des circonstances difficiles. Est-ce que quelqu'un aurait pu prédire, quelqu'un qui est en bonne santé, mashallah, est-ce qu'une personne aurait pu prédire que quelqu'un qui est en, mashallah, en bonne santé, qui n'a aucun problème, puisse mourir subitement, de façon accidentelle, comme ça? Wallahi, personne ne peut prédire. Personne ne peut dire que lui va mourir à 92 ans. Lui a... Personne. وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِيَيَّرْضِينَ. Allah seul sait quand on va mourir, dans quelles circonstances on va mourir. On lisait les commentaires de soit une Nazi'at, vendredi ou la Tanier, il y avait une parole magnifique du commentateur du Mufassir. Ça nous donne des frissons. Il dit que bien inconscient ce croyant qui ne se fait pas du souci du temps qui passe et qui bien au contraire se laisse tromper par le temps en se confortant sur son jeune âge, en se confortant sur sa force physique, sur ses projets, sur ses ambitions. Dit une personne quitte sa maison le matin, une personne quitte son domicile le matin, on va donner le cas d'une personne, soit une personne mariée, soit une personne qui habite encore avec ses parents, et qui dit à sa femme, ou alors qui dit à sa maman, que j'aimerais ce soir, quand je rentre du travail, manger tel repas. Ça nous arrive, oui ou non? Ça nous arrive. Il y a des fois, on a envie de manger quelque chose. On dit à madame, ou alors si on n'est pas marié, on dit à maman, est-ce qu'il serait possible ce soir qu'on mange tel plat? Et l'épouse, en général, elle ne refuse pas. Elle n'a pas intérêt. La maman, mashallah, elle accepte parce qu'elle aime son fils. Et cette personne ne mangera jamais de cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'il avait un rendez-vous avec l'ange de la mort. Cette nourriture qu'elle a souhaitée n'est pas écrite de son risque, de sa subsistance. Et personne ne consommera un grain de riz de plus que ce qui est écrit dans son risque de sa subsistance. Et lorsque la subsistance est terminée, l'ange de la mort vient et reprend l'âme. Et personne au monde, ni un ange, ni un djinn, ni un être humain, ne peut dire à l'ange de la mort, non, pas lui, pas pour le moment, il est trop jeune. Personne. Parce qu'il reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, le ajal est terminé, le risque est terminé, il vient et reprend l'âme. Le commentateur dit également combien de personnes quittent leur maison le matin en embrassant sa femme ou alors en faisant un bisou à sa maman, mais ils ne les retrouveront jamais parce que l'ange de la mort a un rendez-vous avec cette personne. Et ce qui nous interpelle plus encore, plus choquant encore, il y a combien d'entre nous, enfin tout le monde, hein, mashallah, le matin quand on va au travail, on va à l'université, au lycée, peu importe, on met nos vêtements. En général, tout le monde sera habillé. Mais nos vêtements, il dit qu'il y a des gens, et ça c'est tous les jours que ça se passe comme ça. Il y a des personnes qui le matin s'habillent et ils ne pourront jamais retirer ces vêtements. Ce sont les personnes qui vont lui donner le bain mortuaire qui enlèveront ses vêtements. Et ça nous arrivera un jour. Sans le moindre doute, arrivera un jour où le matin je m'habille et que ces vêtements-là vont rester sur moi. Et que ce seront d'autres personnes qui vont les enlever pour me donner le bain mortuaire. Que je meure à 99 ans ou que je meure à 25 ans. Ce sont là des haqiqa, des réalités. L'homme doit toujours, toujours se remettre en question. Jamais se baser sur ses acquis. Jamais se dire que la porte du paradis est grande ouverte pour moi. La wallah. Et donc, pour arriver à ce degré de foi, cet état spirituel, on a besoin de forger la foi. Forger la foi, ça se fait dès le plus jeune âge. Et dans le hadith qu'on a, on a lu donc pour la deuxième fois de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il explique que lorsqu'il était sur la même monture, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam va lui donner des conseils. Il dit, oh mon enfant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit de façon très, très affectueuse. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait avec les plus jeunes. C'était pas, pardon, ce genre de personne qui vous prend de haut. C'est pas quelqu'un qui dit, na'oudhu billah, ou un grand savant, quand il te parle, il se considère comme quelqu'un de vraiment supérieur, que lui c'est qui? Il est qui pour venir me parler? Ben, fais la queue ou demande à une autre personne, pas avec moi, on ne passe pas directement avec les patrons. On va voir des petits, va voir d'autres personnes de ta localité. Na'oudhu billah, na'oudhu billah, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'hésite pas à aller prêcher Abu Lahab. Il n'hésite pas à aller prêcher Abu Jahl. Il n'hésite pas à envoyer des courriers à César, à Qaisar en personne, à Kisra, l'empereur de Perse, l'empereur de Oman, l'empereur de différents pays. Tout comme il n'hésite pas à trouver un enfant et à l'expliquer ce qui va lui apporter l'émancipation, le bonheur de ce dunya et de l'akhira, le contentement d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est Nabiyur Rahma. Ça c'est At-Tawadhu', l'humilité et la ikhlas, la sincérité de notre prophète alayhi salatu wa salam dans la propagation de sa mission. Chaque personne est un mad'ou. Chaque personne mérite qu'on lui apporte la bonne parole. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam avait fait une erreur de jugement une fois, erreur prédestinée par Allah, Allah Azza wa Jal va révéler une sourate pour lui rappeler que tout être vivant, tout être humain mérite la même attention. Il n'y a pas de noble, il n'y a pas de personne vile, de personne ordinaire. Quel était ce verset? Il a compris. Le verset qui a été révélé, regarde. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك وما يدريك لعله يزكى. Prophète عليه الصلاة والسلام était en train de prêcher à des chefs de tribu et c'était, selon les commentateurs, sur le point d'aboutir. Il était en train de persuader. Vous savez qu'un chef de tribu qui accepte l'islam, c'est quoi le natija, le résultat? Toute la tribu il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est comme ça que les Arabes marchaient à l'époque. Si le Amir prend une direction, sama'an wa ta'a. On obéit au Amir. Bien ça. Et survient une personne aveugle. Comment il s'appelait encore? Subhanallah, son nom m'échappe. Oui, non, Ibn Maktoum. Non. Ibn Maktoum. Oui, le nom m'échappe. Personne aveugle qui vient poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam à propos du din. Et le prophète sallam a estimé que ces personnes-là, leur prêche est beaucoup plus important pour le moment. Sans rejeter la personne, mais il s'est détourné de Abdullah ibn Umm Maktoum. Ibn Umm Maktoum, radiallahu anhu. Et là, Allah Azza wa Jalla rappelle que qui te dit que cette personne ne voulait pas se rapprocher d'Allah? Peut-être que ces gens-là sont enflés d'orgueil, de fierté, mais que lui, il n'est pauvre, il est malade, il a un handicap, mais son amour pour sa sincérité et son amour pour Dieu dépasse de loin l'ensemble de ces gens réunis et qu'Allah aime plus cette personne. Rappel pour le Prophète sallam qui a été prédestiné par Allah pour que ce soit un rappel pour la Ummah, l'ensemble de l'humanité. Ainsi était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se retrouve avec cet enfant sur la même monture et qui lui donne des conseils en or à un moment, à une étape de sa vie. Il n'est pas encore adolescent, parce que Ibn Abbas radiallahu anhuma avait à peu près quel âge? 15 ans, à peu près 15 ans au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne ces paroles, il n'est pas encore un adolescent, non, il est encore un enfant, mais c'est maintenant que l'enfant construit sa personnalité. Et quel est l'âge clé chez l'enfant? Quel est le moment clé où il faut inculquer les bonnes choses? 7 ans. Car le prophète m'a dit Mourou, awladakum bis salah wa hum abna sab'a. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Parce qu'à 7 ans, l'enfant doit construire une relation avec son Seigneur. Et c'est sur cette base qu'il va grandir. Si à 7 ans un enfant ne prie pas, il y a un manque de spiritualité. Même s'il n'est pas baligh, même si ce n'est pas un haram, un péché pour lui de ne pas prier, mais il y aura un manquement dans sa spiritualité. Et là, on retrouve l'importance de la tarbiya, de l'éducation de la part des parents, la prise de conscience, les priorités. De le jouer à 7 ans, on a d'autres priorités. Wallah musta'an, on va gâter l'enfant, on va lui donner plein de choses, des consoles, des jeux vidéo, telle chose, telle chose. On va avoir pitié de lui, mais c'est une pitié qui va lui causer problème. On va avoir pitié de lui dimanche, laisse-le dormir. Toute la semaine, il dit ça va à la mosquée Fajr. Aujourd'hui, dimanche, laisse-le dormir. Il fait pitié. Pas il fait pitié, mais il est fatigué, il travaille. Qui s'est fait pitié à la réunion, na'oud billah. Il travaille, il va à l'école. Aujourd'hui, dimanche, ne le réveille pas. Ne l'envoie pas à la prière de Isha. C'est les mamans, ça. Hein? Non, non, laisse-le à la maison. Il y a son émission. Il y a France, Danemark, ou il y a France, je ne sais pas, quel carnage encore. Il y a machin. Laisse-le, il faut qu'il se détende. Ça, c'est de la mauvaise pitié. Ça, on regrette et on paye cash. Quand on couvre l'enfant dans cette phase, l'enfant va comprendre que en fait, j'ai le choix entre mon nafs et l'obéissance aux ordres d'Allah. Un enfant de 7 ans, est-ce qu'il résiste? Dans le sens où est-ce qu'il s'oppose? Non. Un enfant de 7 ans, il est encore dans une phase où il admire le père. Il y a l'admiration pour le papa. Il faut encore le papa, il y a sûr, hein, qu'il donne de bon exemple, d'accord? Il admire son père. Du coup, quand le papa va à la prière, à la mosquée, il amène son fils, il suit son papa et c'est un bonheur. C'est un plaisir, c'est un grand honneur pour lui d'être auprès de son papa en train de prier. Donc pour lui, il est en train d'inculquer cette pratique. Mais si à cet âge, on en trouve une porte, on dit « bêta », bêta c'est en français c'est bête, hein? Bêta c'est un peu de langage indien, « oh mon garçon, ça va? Tu vas avec papa à la mosquée? Ou bien tu veux regarder ton dessin animé ?» Là, c'est toi aussi, il y a mes enfants regardent Ninjago. Allah musta'an. Désolé, ça commence à 8h30. Ils sont en train de regarder Ninjago en vacances. Là, il y a l'école, d'accord? Mais si on commence à dire, est-ce que tu regardes Ninjago ou tu vas aller à la mosquée avec papa? Tu casses ton tarbiya. Ne le laisse pas entrevoir la possibilité entre Amrullah et Ittiba' al-Hawa. Entre l'ordre d'Allah et le fait de suivre son nafs. Autrement, il va grandir avec ce choix. Ça ne veut pas dire non plus qu'on l'impose, non. Mais on lui montre que, mon fils, je te donne ce qu'il y a de meilleur. Tu vas à la mosquée, subhanallah, qu'est-ce que tu vas obtenir? Et déconsidère ces choses-là. Fais en sorte que l'enfant voit qu'aux yeux des parents, c'est plaisir, c'est futile. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu as gagné dedans? Va avec ton père, va, lève tes mains, demande à Allah tout ce que tu veux. Moi, peut-être, je ne peux pas te donner tout ce que tu veux, mais Allah est capable de te donner. Vous savez, les enfants, parfois, il faut les prendre du bon côté. Il aimerait avoir telle chose, il aimerait. Il y a des fois, il vous dit, pour Eid, je voudrais telle chose, telle... Bon, j'espère qu'il ne dit pas pour Noël, mais pour Eid, j'aimerais. Il y a des fois, on ne peut pas. On n'a pas autant d'argent pour donner tant de choses. Mais on dit que, va demander à Allah. Allah est capable de te donner tout ce que tu demandes. On essaie de prendre l'enfant du bon côté et faire entrer l'amour d'Allah dans son cœur. Donc, on est en train de s'éloigner. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'on disait? Il va donner les bons conseils à Ibn Abbas radiallahu anhuma, et ces conseils sont les suivants, et puis on va développer la prochaine fois. 37 minutes, il nous reste 3 minutes. La premier des conseils, c'est comment il avait traduit, et j'avais dit l'autre fois que la traduction était trop littérale, c'était pas bon. Garde Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire que respecte les ordres d'Allah, mets en application de façon stricte les ordres d'Allah, aide le dîn d'Allah, propage le dîn d'Allah, deviens un proche d'Allah dans ta relation avec son dîn, et tu trouveras toujours Allah avec toi, auprès de toi. Allah Azza wa Jal te viendra toujours en aide. Idha sa'alt, fas'alillah. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ô mon enfant, demande à Allah. Ne demande pas aux gens, c'est ce qui veut dire. Ne demande pas aux gens. Ne te rabaisse pas auprès des gens. Ne pense pas que les gens sont supérieurs à toi. Ne pense pas que les hommes peuvent apporter quelque chose aux hommes. Non. Sache que tout est dans les mains d'Allah. Et qu'il suffit d'orienter les cœurs vers Allah Azza wa Jal. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu as besoin de l'aide, tu as besoin de trouver secours, refuge, trouve le secours uniquement auprès d'Allah. Ne demande pas aux gens de t'aider, de te protéger, demande uniquement à ton Seigneur. Et sache que si tout le monde se réunissait pour te venir en aide, pour t'apporter quelque chose, pour te porter, on pourrait dire dans un langage moderne, pour te pistonner, pour te venir en aide dans les étapes de ta vie, sache que si Allah n'a pas prédestiné pour toi ce bien, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour toi. C'est-à-dire, mets pas ta confiance sur cette personne qui travaille, qui a tel poste, que cette personne, lui, il est riche. Je vais le fréquenter, au moins, soit il me donne un peu d'argent, ou alors il me donnera un travail où il va m'aider. Mets ta confiance en Allah. Ne mets jamais ta confiance sur les gens. Personne ne peut rien faire de plus que ce qu'Allah a déjà prédestiné. Donc, quelle est la conclusion? Qui prédestine? C'est Allah. Et quelle est la seule chose qui peut influencer le taqdir? C'est ad-du'a. Donc, voyez la relation entre le troisième point et le deuxième point. Demande le troisième point et le deuxième point. Demande à Allah et tu trouveras ce que tu as besoin. Sache que, également, si les gens se réunissaient pour te faire du mal, ben, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah a déjà prédestiné. Ce qui veut dire, n'aie jamais peur des gens. Un enfant, un jeune qui grandit, doit avoir confiance, j'ai dit confiance en lui. Il y a d'abord confiance en Allah, ensuite il est sûr de lui. Pourquoi est-ce qu'il est sûr de lui? Parce qu'il sait que sa confiance est en Allah. Pourquoi est-ce qu'il est sûr de lui? Parce qu'il est dans le droit chemin. Il sait qu'il pratique son dîn, son cœur avec Allah. Donc, rien ne peut m'arriver. Quand j'ai là, protection d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas peur des gens, moi. J'ai pas peur de telle chose. J'ai pas peur des maladies. J'ai pas peur qu'on me fasse du mal, du temps, parce que je suis sous la protection de mon Seigneur. J'ai compris comment est-ce que l'enfant va grandir. Il aura une force psychologique. Vous en trouvez beaucoup, des gens comme ça, qui ont cette force mentale, cette force de caractère qui en fait une force. Il y a des gens qui ont la force mentale, mais maintenant, si c'est une force spirituelle, ça vous donne Abu Bakr, ça vous donne Omar, Uthman, Ali, ça vous donne ces jeunes enfants qui se dressaient sur la pointe de leurs pieds pour que le Prophète sallam les voit plus grands, afin qu'ils viennent aider les Sahaba pour protéger le dîn d'Allah. C'était des personnes qui avaient, subhanallah, une confiance en Allah et donc une confiance en eux, qui n'avaient peur de rien. Il y a des gens qui veulent exterminer la religion. Je suis peut-être petit, je suis peut-être jeune, mais je suis capable de défendre ma religion parce que je n'ai pas peur des gens, moi. Je n'ai pas peur de cette armée qui veut me tuer, qui veut tuer ma maman, qui veut tuer mes frères et sœurs. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne parce que dans mon cœur, il y a Allah. Laissez un kafar volant tomber là. Voyez comment Amada, comment Nidar, comment Maou, il va se lever, et Bila, ils vont courir dans tous les sens. Peut-être moi aussi, peut-être. Non, moi je vais monter sur le mimbar. D'accord? Parce que dans les cœurs, il y a autre chose. Il y a d'autres craintes. Et donc, pour que tu n'aies pas peur des gens, l'enseignement suivant, je n'ai pas compté, c'est peut-être le cinquième, sache que, donc ils ne pourront rien te faire plus que ce qu'Allah a déjà prédestiné, parce que tout a déjà été écrit dans le destin. Donc, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de protection contre des ennemis, des gens, demande à Allah. Et ces gens, ils te feront rien de plus que ce qu'Allah a déjà écrit de le tarder. Donc, c'est vers Allah que tu t'orientes et non pas vers les asbab, et non pas vers les intermédiaires. Sache que Rufi'at al-Aqlam, le stylo est levé, une expression, une métaphore, Wajufat al-Suhuf, et que l'encre est séchée, tout a été écrit. Et donc, adresse-toi à celui qui a tout prédestiné. Et avec ça, on va essayer, Inch'Allah, de développer ces points-là. Avec ça, le croyant, il forge un iman solide. Et il construit une relation saine, basée sur le tawhid, avec Allah Azza wa Jal, avec son Seigneur. Et on enseignait aux élèves un des fawaïd, un des avantages de développer al-iman bil-asma wa sifat, croire et connaître les noms et les attributs d'Allah, dit que cela va renforcer notre notion de tawhid. Quand on demande à quelqu'un, qui est Allah? Qu'est-ce que tu connais sur ton Seigneur? Il dit, Allah, il est unique. J'adore Allah et Allah me donne la vie, il me donne la mort. Ça se limite à ça. Mais quand quelqu'un connaît les attributs d'Allah, il est capable de dire, Allah, c'est celui qui a pitié de toute créature. Allah, c'est celui qui peut sévir. Allah, c'est celui qui peut pardonner. Allah, c'est celui qui peut élever. Allah, c'est celui qui peut rabaisser des gens. Autant de qualités d'Allah on va connaître, autant notre notion d'unicité d'Allah, elle va être plus riche. Et donc, autant notre amour pour Allah et notre crainte d'Allah va être plus fort dans nos cœurs, ce qui fera de nous de bons croyants. Qu'Allah, Rabbul Izzah, nous accorde à tous cette compréhension saine du din, qu'Allah renforce l'iman de nos cœurs, qu'Allah nous accorde un iman proche de Ibn Abbas et des sahaba, qui nous permet de rester ferme dans les bonnes œuvres, éloigné des péchés et sabir et patient dans les moments de difficulté, et que réellement nous développons la sincérité et qu'Allah nous accepte malgré nos péchés au quotidien, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré les défauts qu'il y a en nous, malgré la saleté, les points noirs qu'il y a sur nos cœurs. Allahu Akbar, qu'Allah seul sait les péchés que nous cumulons au quotidien, consciemment ou inconsciemment. Mais si Allah n'était pas clément, il n'y avait plus personne qui priait aujourd'hui. C'est qu'Allah a pitié de nous, il nous choisit quand même, malgré ça, pour venir nous prosterner 5 fois devant lui. Nous lui en sommes reconnaissants et nous demandons à Allah de nous accepter, de nous pardonner et de nous garder sur le droit chemin jusqu'à la mort. Allahumma amin. Inch'Allah, la prochaine fois, on développera le hadith. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.